Cet épisode de podcast a été réalisé dans le cadre du Forum des ruralités engagées, pour échanger avec les nouveaux acteurs du développement local et découvrir les initiatives solidaires et ingénieuses qui germent dans les territoires ruraux. Cet événement a été organisé par Village Vivant, en partenariat avec l'AVIS, l'Agence d'ingénierie pour entreprendre autrement, et le RTES, le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Malheureusement, le forum n'ayant pu se tenir en présentiel en raison de la crise sanitaire, la majorité des ateliers ont été dématérialisés en visioconférence. Les témoignages prévus initialement ont, quant à eux, été enregistrés par la Traverse. Nous vous les livrons aujourd'hui au travers de ce podcast. Nous y tendons le micro à des porteurs de projets locaux qui œuvrent à faire vivre les territoires ruraux. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous rencontrons Rami Dada de La Machine, une brasserie artisanale à Pont-en-Royans. Avec lui, nous avons parlé d'entreprise en autogestion, de bière et de volonté de travailler avec ses mains. Nous sommes maintenant avec Rami de La Machine. Bonjour Rami.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Ouais. Du coup, je m'appelle Rami Dada, j'ai 33 ans, je suis franco-libanais, j'habite en France depuis une quinzaine d'années et je monte une brasserie artisanale en coopérative à Saint-Laurent-en-Royan.
Et justement, est-ce que tu peux nous présenter ton territoire d'action ?
Alors, c'est mon territoire d'implantation, en fait. Le territoire d'implantation, Saint-Laurent-en-Royan, c'est situé entre Valence et Grenoble. C'est les contreforts nord du Vercors. Moi, ça fait assez peu de temps que j'y suis pour en parler en détail, mais ça a été un bassin artisanal assez fort, notamment de la tournerie-tabletterie. Et aujourd'hui, ça reste un point fort de l'agriculture, de l'arboriculture, notamment des noix. C'est un endroit pour le coup très rural en termes de comparaison. Moi, j'ai habité quelques années dans la vallée de la Drôme, donc vers Crest. Là, on est sur un territoire beaucoup moins urbanisé, mais avec, une vague néo-rurale qui est en train d'arriver depuis quelques années, quelques mois. Enfin, voilà, ça fait pas longtemps, en tout cas, que c'est en train de se développer autour du territoire. Pas mal de projets. Alors, il y a eu des projets un peu fondateurs, mais là, voilà, il y a de plus en plus de choses qui se passent.
Et justement, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour toi la ruralité ?
La ruralité, alors comme ça, sans y avoir vraiment réfléchi auparavant, je crois que c'est un territoire qui est déjà pas mal régi par une activité paysanne, artisanale. Qui du coup n'est pas soumise à des lois d'urbanisme en tout cas les moins, il y a moins de construction, il y a plus de nature, il y a plus d'espace dédié à l'agriculture, à la nature et du coup c'est des populations à mon sens qui sont plus tournées sur le faire avec les mains plutôt que faire avec l'ordinateur.
Et vu qu'on était censé se voir au Forum des ruralités engagées, est-ce que tu pourrais nous donner aussi ta définition de l'engagement ?
J'ai beaucoup de mal à dissocier engagement et militantisme, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de les dissocier. Pour moi, l'engagement, c'est aller au bout de ses idées ou en tout cas d'essayer de s'en rapprocher au maximum au travers de compromis, vu qu'on a tous nos paradoxes. D'essayer d'aller au plus près de ce qu'on idéalise, soit pour la vie du quotidien ou soit pour le monde de demain.
Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de La Machine et nous présenter ce projet et nous raconter ton histoire par rapport à ce projet ?
Je peux commencer un peu oui, par mon histoire. Moi, je suis arrivé du Liban en 2004-2005 pour finir mes études. Je me suis dirigé vers le développement et la communication appliquée au développement et à l'humanitaire. Je suis allé bosser pendant quelques mois au Liban dans les camps de réfugiés palestiniens Et par le biais de mes études, en fait, j'ai décidé à un moment d'arrêter pour bosser avec mes mains et arrêter de bosser avec mon ordinateur. Et je me suis fait embaucher dans une SCOP qui a été créée en 2011, qui s'appelle le Court Circuit, qui est un resto-bar en circuit court, qui fête ses 10 ans ou qui a fêté ses 10 ans cette année, l'année prochaine, bref. Et en fait, ça a été un peu une révélation. Alors, à la fois du point de vue de bosser dans un endroit convivial avec des produits en circuit court, toute une dimension d'artisanat gravitant autour, d'écologie aussi, parce que l'idée, c'est de bosser en circuit court, de participer au développement économique des artisans agriculteurs du coin. Et justement, d'arriver à démontrer qu'on pouvait bien manger, bien boire, évoluer dans un contexte d'entreprise de manière fondée et éthique. Donc il y a eu cette révélation de dire une personne égale une voix, toutes les personnes salariées au bout d'un an deviennent associées. La démocratie au travail, c'était une découverte. Et il a fallu un peu désapprendre pour apprendre ce que c'était la démocratie au travail. Et ensuite, j'ai quitté le court-circuit et avec deux collègues du court-circuit, on a monté un bar qui s'appelle le Biristan. Au travers de ces deux expériences qui sont le court-circuit et le Biristan, j'ai rencontré Sylvain, qui est aujourd'hui mon associé de la machine, qui lui travaillait à la brasserie de la Pleine Lune et donc qui était mon fournisseur de bière d'une certaine manière. Et par la suite, 3 ans après l'ouverture du Biristan, j'ai décidé d'arrêter le service, en fait, pour me diriger vers la brasserie artisanale et toutes ses composantes, donc production, commercialisation, communication, administration. Et j'ai eu la chance de bosser avec Sylvain à la Pleine Lune pendant un peu plus d'un an. Puis j'ai fait mon petit tour des brasseries, j'ai bossé à la Grivoise, j'ai fait un stage à la brasserie stéphanoise à Saint-Thé, la Grivoise en Ardèche. Et avec Sylvain, on a eu un constat partagé sur pas mal d'aspects autour de la brasserie artisanale. Et on s'est dit qu'il y avait peu de brasseries finalement en bio, en volume, qui essayaient d'être soutenables. Donc ça, c'était aussi un point de vue de la part de Sylvain qui était dans le monde de la bière depuis un peu moins de 10 ans. Et moi, j'arrivais avec mon bagage SCOP, justement, en disant ce serait intéressant d'appliquer la démocratie au travail sur une entreprise de production et non une entreprise de service, voir un peu comment ça fonctionnait. Donc aujourd'hui, la machine brasserie artisanale et coopérative a été créée là en janvier, justement, avec l'objectif de démarrer là dans quelques semaines. L'idée est de trouver, de coupler un peu tout ça, c'est-à-dire avoir une soutenabilité écologique dans la mesure du possible. En tout cas, avoir des objectifs de soutenabilité à terme, créer une entreprise qui soit coopérative avec des embauches, avec toute une stratégie aussi salariale pour replacer le salarié au centre de l'activité. Je dirais collectiviser les moyens de production, ça fait un peu d'un autre temps, mais j'assume. Et par ailleurs, justement, essayer aussi d'avoir une stratégie coopérative à tous les étages, c'est-à-dire qu'on est financé par la NEF, on bosse avec Enercoop, on est en partenariat avec Village Vivant, on est incubé par la Cycle Grenade, on est accompagné par l'Union régionale des coopératives. Enfin voilà, on est financé aussi par France Active, par Initiative. Donc le but, voilà, c'était d'essayer d'avoir une cohérence totale sur pratiquement tous les aspects. Même nos systèmes informatiques sont en logiciel libre. Enfin voilà, on essaye de s'adapter au maximum à notre éthique dans la mesure du possible.
Et justement, comment ça se traduit la démocratie au travail dans une entreprise de production ?
Et bien là, on est deux et on se connaît depuis longtemps, donc on s'écoute déjà. On essaye de trouver un langage, de se créer une communication avec... Essayer aussi, surtout, je crois, de sortir un peu du... Dans la brasserie artisanale, souvent, il y a le brasseur. C'est un peu comme... les grands cuisiniers, on parle que des grands cuistots et jamais des petites mains qui sont autour. Là, l'idée, justement, alors on est encore aux prémices, mais à terme, l'objectif, c'est que tout le monde soit polyvalent, la polyvalence totale, en tout cas sur une temporalité déterminée, permet de casser un peu les dynamiques de, voilà, lui, il est brasseur, elle est livreuse, lui, il s'occupe du conditionnement et ainsi de suite, et de pouvoir, en fait, tourner sur les postes pour que tout le monde ait accès à l'information, pour que l'information se passe beaucoup plus facilement et surtout que tout le monde soit force de proposition. Après, voilà, il y a une articulation qui est particulière à avoir hein, dans le rapport de coopération, c'est qu'il faut savoir articuler l'initiative individuelle avec les nécessités collectives et accepter d'être porteur d'idées, d'accepter la critique du collectif. Accepter aussi de recommencer son boulot pour adapter au mieux son langage à son collectif. Enfin, c'est, voilà, y a une espèce de gymnastique au début, mais qui se fait assez facilement. Le Biristan, on a commencé à 5, au bout de 2 ans, on était 18 personnes. Donc là, il fallait justement accompagner pas mal des gens et créer des outils. Là, on est 2, donc c'est encore très facile, on se parle directement, on n'a pas encore de temps de réunion à proprement parler. Dans l'idée d'embaucher au mois d'avril, là on va commencer à justement mettre en place des réunions, des temps d'écoute, des temps de questions, des temps d'initiatives personnelles pour le projet, afin que tout le monde soit entendu et trouve sa place.
Est-ce que tu peux parler un peu plus de l'accompagnement que vous avez eu et à quel besoin il a répondu ? Puisque effectivement, vous êtes dans tout un réseau à la fois Grenade, Village Vivant et compagnie.
Alors nous, on a particulièrement eu un accompagnement du Grenade, vu que moi, je suis ancien salarié des entreprises du Grenade et que le Grenade est une SIC qui a pour objectif l'intrapreneuriat, c'est-à-dire permettre à ses salariés et anciens salariés de créer des entreprises dans le cadre des chartes qui ont été créées dans le Grenade. L'accompagnement, bah alors c'est assez particulier. Nous, ça fait des années qu'on bosse dans ce milieu de la bière artisanale. Alors, Sylvain, mon collègue, plus sur des aspects de production et de commercialisation. Moi, plus en tant que barman et responsable des stocks, d'une certaine manière. Donc, on est tous les deux de part et d'autre du comptoir. On avait certaines... On avait pas mal d'infos, en fait. Moi, j'avais déjà créé une entreprise. Sylvain, dans son ancien métier, est arrivé assez tôt dans la création, donc avait aussi pas mal de billes. Et puis, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, donc il était au fait d'énormément de choses. Et sur la bière, justement, bah, il avait cette expérience-là. Donc, nous, ce qu'on a demandé principalement au travers de l'accompagnement du Grenade, c'était une structure, en fait, un cadrage, parce que on peut vite partir dans tous les sens, entre la production, la commercialisation, on aimerait bien ouvrir un lieu sur place, il y a toute cette stratégie salariale, les approvisionnements, la labellisation en bio, enfin, tellement de choses que finalement, on s'est retrouvé à être accompagné par Julie, donc, qui est facilitatrice au Grenade, qui, elle, est comptable de formation et qui nous a vraiment cadré sur comment développer notre prévisionnel, quel est notre business plan je sais pas si ça se dit, en concomitance avec l'URSCOP, l'Union Régionale des SCOP, pareil Clément Charot qui nous a accompagné tout au long de la création et du business plan pour pouvoir arriver auprès des banques, donc de la NEF qui est notre seule banque d'ailleurs, et de l'URSCOP et de France Active en ayant un projet béton financé, organisé voilà. Principalement, c'est ça. Et pour Village Vivant, bah, c'est assez récent. Nous, ce qui nous manquait, c'était la gestion du patrimoine. C'était avoir, vu qu'on récupère un bâtiment qui date d'après-guerre, qui est une ancienne scierie, qui est collée à un bâtiment qui avant était une fabrique de ski en bois, qui a fait faillite parce que je ne sais quelle marque française a dû fabriquer des skis en fibre de verre. Cette scierie-là, il y avait pas mal de travaux à faire dessus. Donc nous, on a investi un peu moins de 100 000 euros sur les travaux, le raccordement à tous les fluides. Et en fait, il y a pas mal de trucs à faire encore. Et c'est vrai qu'on avait besoin à la fois d'être accompagné sur les travaux, d'avoir des gens qui étaient carrés experts là-dessus, Donc on a rencontré Anne-Sophie, Marion de Village Vivant et puis bien sûr Raphaël et Sylvain. Donc d'avoir à la fois un appui sur l'immobilier, les travaux, un soulagement aussi de la trésor, parce que du coup ils prennent en charge une partie des travaux qui se répercutent sur notre loyer. Mais en tout cas, ça nous permet en fait d'avoir un partenaire purement sur l'immobilier, chose qu'on ne connaît pas, ou très peu, et sentir vraiment, j'appuie là-dessus sur l'accompagnement en disant souvent les propriétaires ils s'en foutent de, ils louent un bien et puis voilà, là l'idée c'est que on fasse de ce lieu un lieu incroyable, donc c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur votre ancrage local, comment ça se traduit et par exemple quel rayonnement vous avez prévu pour la distribution des bières ?
Alors nous on a commencé en se disant qu'on allait surtout axer la distribution sur la région parce que le marché local il est très difficilement lisible, alors surtout dans des espaces ruraux où il y a très peu de points de vente. Dans le Royan, il y a des lieux qui sont installés depuis longtemps. La bière artisanale, il y a 10 ans, les gens prêchaient dans le désert pour vendre de la bière artisanale. Donc aujourd'hui, Lyon est une place forte, Grenoble est une place forte, Paris est une place forte. Dans les milieux ruraux, c'est encore différent. Après, il y a des initiatives, il se passe des trucs, des festivals qui essayent de mettre en avant de la bière locale. Enfin, en fait, je crois que c'est le mouvement, un peu le locavore, qui a poussé à ce développement-là. Mais en tout cas, nous concernant, nous, notre réseau principalement se situe dans des grandes villes, Valence, Lyon, Grenoble, la vallée de la Drôme. L'idée est plutôt de s'assurer d'une distribution sur ces zones-là et de laisser venir le local au travers d'un lieu de convivialité. Alors on va pas faire un bar, moi le mot bar pour moi il fonctionne pas pour ce qu'on a envie de faire, mais on aimerait créer un lieu où justement on peut à la fois accueillir des marchés de fruits et légumes couverts en hiver et proposer des soirées jeux, enfin faire une halle. Donc je pense que au travers du lieu de convivialité qu'on va créer grâce à Village Vivant notamment, c'est là où on va pouvoir un peu rayonner sur le local, parce que passe des trucs, mais il n'y a pas assez de lieux pour le nombre de personnes qu'il y a. Et justement, on va voir au travers de ça ce que ça va nous ouvrir comme porte.
Et pour la création de ce lieu de convivialité, comment vous êtes reçu par les collectivités locales, une commune comme ?
Eh bien alors, on a rencontré la mairie de Saint-Laurent-en-Royan, super accueil. Ce qui les intéressait aussi, c'était combien d'emplois on allait créer, qu'est-ce qu'on allait proposer comme activité, est-ce qu'on allait faire concurrence à des lieux déjà établis. Nous, on a rassuré un peu tout le monde en disant que, en fait, l'hybridation d'activités permet aussi de pas marcher sur les plates-bandes de tout le monde. L'idée, encore une fois, n'est pas d'ouvrir un bar, mais d'ouvrir de temps en temps, les fins de semaine, sur des créneaux très précis. Mais dans l'absolu, non, super accueil. Et puis voilà, cette volonté de créer de l'emploi. Hein, nous, on aime bien faire de la bière, on aime la bière. Mais l'objectif, c'est quand même de démontrer qu'on peut travailler autrement, créer de l'emploi et créer des conditions de travail et faire en sorte que les gens qui bossent dans nos structures, en tout cas, viennent bosser avec plaisir. Et ce qui n'est pas toujours le cas, ou qui n'est pas souvent le cas. Donc non, on est plutôt bien accueillis. Et puis, on, de toute façon, on a hâte de voir dès lors où on va ouvrir. Pour le moment, ça reste des suppositions.
J'avais aussi une question sur le mode de financement. J'ai vu que vous aviez utilisé des titres participatifs. Et est-ce que tu peux me parler de ça ?
Alors, on a utilisé des titres participatifs. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà eu fait par le passé pour le Biristan notamment. L'idée, c'est un peu comme des obligations finalement. Hein. C'est des gens qui investissent de l'argent. Alors, c'est comme un prêt. En fait, on a une partie de l'argent qui est placée dans l'entreprise qui est rémunérée à taux fixe et une partie qui est rémunérée à taux variable. Ces taux sont définis par l'entreprise. Il y a un contrôle total de l'entreprise sur cet argent-là et sur les taux de rémunération. Il n'y a pas du tout ce rapport d'actionnariat. C'est-à-dire que les gens mettent de l'argent, il est bloqué 7 ans. Là, ce qu'on essayait de faire dans le cas de la machine, c'était de mieux rémunérer qu'un taux d'épargne pour dire aux gens, bah voilà, en fait, merci déjà de nous financer et voilà, on va essayer de vous le rendre correctement et merci de prendre ce risque avec nous. Donc cet argent est bloqué 7 ans donc dans 7 ans on est censé rendre l'argent, sachant que c'est pareil, c'est l'entreprise qui décide quand et comment elle rend l'argent. Nous l'objectif c'est de le rendre au bout des 7 ans avec ce modèle économique. Alors là on est dans une période un peu particulière parce que nous quand on a commencé à imaginer notre projet on n'avait pas prévu qu'il y aurait une pandémie. Mais dans l'absolu, l'idée pour nous était de faire de la bière artisanale en fût uniquement. Proposer de la bière, en fait, en se disant, le client final, quand il achète une bouteille de bière artisanale qui paye 6 euros ou 7 euros, les 75 centilitres, il paye beaucoup le contenant, l'étiquette, la capsule, le temps de travail d'une personne qui ne fait pas un job incroyable de mettre des bouteilles sur une ligne d'embouteillage ou de prendre cette bouteille remplie et de la mettre dans un carton. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on va essayer de faire de la bière facile, des bières de soif, pour commencer, quoi. Dans l'idée que bah, c'est un objet de convivialité et à terme, proposer ça à des bars et pourquoi pas des épiceries qui font du vrac dans l'idée de vendre de la bière à un tarif raisonnable. Alors pour faire la chic Heineken, hein, il y a aussi cette réflexion-là de casser un peu l'hégémonie des grandes brasseries industrielles et voilà, proposer un produit différent dans un premier temps. Voilà. Et pour le financement, comment se passe le financement ? C'est-à-dire qu'on est allé voir la nef en leur disant on aimerait bien monter cette brasserie. Ils nous ont dit ok, pas de souci, on peut vous prêter ça, mais la condition suspensive, c'est que vous leviez tant en titre participatif, ce qu'on a réussi à faire. Et du coup, derrière, il y avait l'URSCOP qui nous a fait un prêt également, avec une garantie de prêt, et France Active. Qui nous a débloqué un prêt. On a eu également des prêts d'honneur d'initiative Sud Grésivaudan. Voilà, en nos noms propres, pour le coup. Et voilà. Moi, je suis payé depuis ce mois-ci. Wouh ! Et alors, on est contraint par des conventions collectives nationales. Donc, on se paye à ce qu'on évalue être notre statut dans cette convention collective, parce qu'il y a des échelons et des niveaux. Du coup, on essaye de garder un salaire à peu près sensiblement similaire à ce qu'on avait par le passé. Donc, ça, c'est pas déconnant, mais ça nous suffit amplement. Enfin, moi, je suis autour de 1500 euros net. Et par ailleurs, l'idée, c'est d'embaucher assez rapidement. Le lieu qu'on va ouvrir au printemps prochain, qui va se dessiner sous la forme d'une guinguette pour les beaux jours à venir, va nécessiter qu'on soit une personne de plus pour pouvoir continuer à produire, livrer les bars avec qui on bosse et tenir ce lieu sur place. Et à terme, on a dimensionné le projet pour être 5, 6. En fait, en fonction, on a acheté une unité de production qui nous permet de grossir en volume assez facilement. L'idée n'étant pas de grossir absolument, mais de trouver un rythme de croisière. Donc, l'objectif, alors je ne sais pas si ça va te parler, mais l'objectif est de se stabiliser autour de 2000 hectolitres dans les 3 prochaines années, ce qui est à peu près le bon seuil pour ni avoir de problème de trésor, ni courir après une croissance ou une crise de croissance, c'est-à-dire vendre, acheter, vendre. Là, l'idée, c'est plutôt de trouver un rythme de croisière où chacun à sa place, on arrive à bosser un temps de travail correct sans y passer notre vie, quoi. Ce que ça veut dire, c'est que si tu augmentes tes volumes, ça veut dire que tu investis dans du matériel, donc des cuves de fermentation. Ça veut dire que tu investis aussi dans du salaire, dans de la matière première, dans du conditionnement. Et donc, forcément, tu martyrises un peu ta trésorerie aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu vendes plus. Donc, c'est ça un peu la crise de croissance, c'est d'être dans une course effrénée dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois dans ce que tu crées dans ton entreprise et ce que tu dois vendre à l'extérieur. Donc, ça arrive pas mal hein, qu'il y ait des entreprises qui se cassent la gueule parce que soit le projet a été mal dimensionné, soit ils n'avaient pas anticipé ce développement en tout cas. Donc voilà, nous on essaye de... Et puis par mon expérience du Biristan et de la pleine lune, c'est de réfléchir d'une manière assez simple. On se donne les moyens de pouvoir grossir, mais par contre on le prépare ce développement. On ne se fait pas avoir quoi.
Comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir bosser avec tes mains, comme tu dis, et pourquoi ton choix d'activité s'est orienté vers la bière ?
Pourquoi j'en suis arrivé à vouloir bosser avec les mains ? J'en suis arrivé à vouloir faire quelque chose qui soit palpable et qui soit là. Je voulais plus être dans le service. Alors moi, je suis pas cuistot, mais j'adore la cuisine. Mais il y a quelque chose d'assez... J'étais serveur, commis de cuisine, mais je crois qu'il y a un truc qui s'assimile pas mal à de la cuisine, c'est-à-dire proposer quelque chose. Je sais pas, ce café, il est là, il est bon, il est pas bon. Il y a quelque chose d'assez protecteur, entre guillemets, de dire voilà, ça c'est mon produit. Ou c'est le produit que je fais ou que je participe à faire. J'en suis fier. Et il y a une espèce de confort intellectuel à dire voilà, je suis pas en train de te vendre des idées, quoi. Ou je suis pas en train d'essayer de te convaincre que comme ça c'est mieux. Là, j'arrive au travers de ce produit à parler à des gens et peut-être à pas plaire à d'autres. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, c'est ce que je trouvais agréable dans ce truc. Et puis surtout, il y a toujours... Alors, il y a le côté festif de la bière. Et puis moi, j'ai eu une révélation un jour. J'ai bu une bière houblonnée. J'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, je me suis dit, ouais, je veux faire ça dans ma vie. Parce que je trouve ça cool. Et puis, il y a un côté un peu alchimiste aussi. Tu prends de l'eau, tu prends du grain maltais, du houblon, de la levure. Et puis, en une journée, tu arrives à mélanger ça correctement pour, dans 3 semaines, avoir une boisson aussi de fête, d'échange. Enfin, c'est un temps. La bière, c'est un moment. Je veux boire un coup, l'apéro. C'est un temps que j'aime bien et voilà, en ayant été barman et en ayant animé entre guillemets ces moments-là, c'est un temps qui me plaît. Je suis content de plus être derrière le comptoir à tirer les bières, mais je suis content de participer à ce moment-là, quoi.
Quand tu parlais d'engagement, tu parlais d'activité militante. Est-ce que pour toi, il y a une dimension militante à ce que tu fais ?
Ouais. Enfin, alors c'est très particulier. Moi, je vis avec des gens qui sont plutôt activistes, donc des fois, j'ai l'impression de rien faire, mais on va dire que mon militantisme se dilue dans mes activités du quotidien. Je veux créer de l'emploi, je veux créer de l'emploi dans un cadre où les salariés deviennent associés. Je veux aussi pas du tout être moteur simplement de l'entreprise que je co-crée, mais participer avec plusieurs personnes à la développer. Donc il y a ça, il y a le fait aussi de, on ne rémunère pas le capital, on rémunère les gens, le travail, que tu sois en CDD ou en CDI, une partie des bénéfices est reversée au temps de travail. Déjà, je trouve qu'on casse un peu les codes communs du capitalisme ambiant. Et puis dans l'idée, oui, c'est essayer de bosser en bio. Déjà là, il y a... Voilà, même si le bio vaut ce qu'il vaut, bah, c'est toujours moins pire. Et à terme, bah, on va voir un peu toutes les filières locales qui se créent. Hein, c'est toujours pareil. Les malteries artisanales, les houblonnières artisanales. On est à l'affût, on regarde, on attend de voir comment ça se met en place pour pouvoir bosser avec. Mais ouais, c'est toujours, des enjeux, en tout cas, qui sont au cœur de nos activités. Et voilà.
Est-ce que tu connais d'autres exemples de gens qui font de la bière artisanale en milieu rural quand même si c'est très urbain?
Ouais, il y en a plein. Ouais. Il y a plein d'exemples. Et puis il y a pas un monde de la bière, il y a des mondes de la bière. Justement entre ces brasseries périurbaines, ces brasseries complètement urbaines ou des brasseries qui sont installés dans des campagnes. Il y a plein d'exemples. Il y a des paysans brasseurs donc qui font à la fois leur malt et leur houblon, enfin qui font tout. Il y a des brasseries dans des marchés de super niches où c'est ce qu'on appelle les beer geeks. Donc c'est des gens qui sont complètement à fond, qui cherchent des nouveautés dans tous les sens. Enfin voilà, il y a des milieux de la bière. Il y a pas mal. Il y a peu. vis-à-vis du nombre de brasseries artisanales qu'il y a en France, de brasseries en coopérative. Mais après, la coopérative, c'est un état d'esprit. C'est pas forcément... je veux dire, tu peux être en scope et ça peut très mal se passer aussi dans ton entreprise. Donc ouais, il y a quelques brasseries que je connais qui sont en scope et ou qui sont en nature et progrès. Je pense à la Phare Laudoise qui est à Chazelles-sur-Lyon. Il y a des brasseries qui sont super pertinentes aussi un peu partout en France, quoi. Donc il se passe beaucoup de choses qui coïncident aussi avec un développement du palais des Français. C'est-à-dire que les gens commencent à trouver que tes bières artisanales, ça a du goût, que ça a du sens aussi, parce qu'on ne sait pas ce qu'on boit avec Heineken ou avec Kronenbourg. Et puis de toute façon, c'est des produits soumis aux économies d'échelle. Donc en fait, on boit... notamment des extraits de houblon. Et puis, une partie du maltage, en fait, ça peut être du riz, si le riz est moins cher que le blé, ou du blé, si le blé est moins cher que le riz. Et donc, c'est... Voilà, ça évolue pas mal.
Merci beaucoup.
Et de rien.
Nous espérons que ce témoignage vous a plu, qu'il vous a inspiré, questionné, ou qu'il vous a donné envie de vous engager. Pour aller plus loin et mieux connaître la brasserie La Machine, nous vous glissons plus d'infos en description de l'épisode. Cet épisode a été réalisé pour le Forum des ruralités engagées par La Traverse. Le micro a été tendu par Alexia Beaujeu. Nous remercions également tous les partenaires du Forum sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir, même dans ces conditions particulières. La Fondation La France s'engage, la Fondation RTE, l'Agence nationale de cohésion des territoires, la Banque des Territoires, la Fondation Massif, la Fondation Crédit Coopératif et le groupe La Poste. Retrouvez toutes ces informations et plus encore sur www.villagevivant.com.